Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Et voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Le plan de déconfinement des territoires du Nord-Ouest, Emerge Wisely, est enfin dévoilé. Les prochaines étapes dépendent essentiellement des taux de vaccination au territoire du Nord-Ouest comme ailleurs au Canada. Marie-Soleil Desautels nous donne les détails. Une nouvelle aide financière du gouvernement vise à assurer la survie des entreprises de tourisme et d'hébergement. Aux yeux de Tourisme TNO, le temps presse, on a très hâte au retour des voyageurs. Mon collègue Denis Laure nous parle du processus de transformation de la municipalité d'Inuvik. Le gouvernement Cochrane est à mi-parcours. On vous dresse un bref aperçu des plus récents projets de loi de cette 19e Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. La loi sur les langues officielles des TNO est en pleine révision. Les audiences publiques débutaient cette semaine et ça se passait à Inuvik. Baptiste Foisy nous donne les détails. Et finalement, Thomas Chabot nous parle du marché estival de Yellowknife qui s'installait cette semaine au parc Sambaqué. Le plan de déconfinement des territoires du Nord-Ouest, une reprise avisée, était dévoilé cette semaine, le 9 juin. On y apprend notamment que le taux de vaccination au territoire du Nord-Ouest est maintenant assez élevé pour assouplir des restrictions liées à la pandémie, la première à l'être depuis l'annonce. C'est que les rassemblements extérieurs passent à 200 participants. Marie-Soleil Desautels, d'abord, sur quels critères se base le gouvernement pour assouplir les règles?
Le gouvernement va relâcher ses restrictions selon trois critères, soit le taux de vaccination au territoire du Nord-Ouest, le taux de vaccination au Canada et le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID dans l'ensemble du pays. L'administratrice en chef de la santé publique, la docteure Camille Candola, a dit lors de la conférence de presse que le plan est guidé par des données et non par des dates. Alors, voici quelques données. Il y a 69 % des résidents des territoires du Nord-Ouest de 18 ans et plus qui sont partiellement vaccinés et 62 % le sont entièrement. À la grandeur du pays, près de 72 % des Canadiens de plus de 12 ans avaient reçu au moins une dose d'un vaccin et 10 % étaient pleinement vaccinés. Selon le plan, une reprise avisée, jusqu'à 200 personnes peuvent déjà se rassembler à l'extérieur puisqu'il requiert que 66 % des adultes ténois soient partiellement vaccinés et qu'on a déjà atteint ce palier-là. Quant au rassemblement de plus de 200 personnes à l'extérieur, il nécessite une approbation des autorités de la santé publique. L'administratrice en chef de la santé publique, la Dr. Ken Candola, a spécifié durant la conférence de presse que le masque n'est pas obligatoire durant les rassemblements extérieurs, mais son gouvernement continue à le recommander.
Et Marie-Soleil, il y aura aussi des changements pour les rassemblements intérieurs. En ce moment, c'est limité à 25 personnes, à moins d'avoir une exemption.
Oui, dès qu'au moins 75 % des adultes des territoires du Nord-Ouest seront partiellement vaccinés ou que 66 % le seront entièrement, un maximum de 200 personnes pourront se rassembler à l'intérieur. Ces conditions devraient être réunies début juillet, croit le gouvernement, si la vaccination continue à bonne vitesse.
Donc, espérons-le, début juillet. On a aussi appris que les exigences d'auto-isolement seront réduites, mais ça dépend pas seulement des Ténois, Marie-Soleil, ça dépend du nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour au Canada.
En effet, dès qu'il y aura moins de 1000 nouveaux cas de COVID par jour au Canada sur une moyenne de 7 jours, les exigences d'auto-isolement seront réduites pour tout le monde, a affirmé la docteure Kim Candela lors de la conférence de presse. Donc, les résidents des territoires du Nord-Ouest entièrement vaccinés de retour d'un voyage au Canada n'auront plus besoin de s'auto-isoler, ni les membres de leur ménage. Ceux qui le sont partiellement n'auront qu'à le faire pendant 8 jours s'ils obtiennent un test de dépistage négatif au 8e jour. Les personnes non vaccinées devront s'auto-isoler 10 jours et se faire dépister au 10e jour. Et les membres du ménage d'un voyageur partiellement ou non vacciné devront aussi s'auto-isoler avec eux, peu importe s'ils sont vaccinés ou non. La santé publique croit que le nombre de nouveaux cas par jour tombera sur la barre des 1000 nouvelles cet été. Ce critère, selon la docteur Ken Candela, permet de réduire le risque d'importation du virus au retour d'un voyage et de transmission communautaire par la suite dans les communautés ténoises.
Et pour l'instant, là, du moins en date du 9 juin, on dénombrait 1388 nouveaux cas au Canada. Donc, on espère que les chiffres baisseront, en effet. Qu'arrivera-t-il, Marie-Soleil, si cet automne, par exemple, là, le nombre de cas devait augmenter au Canada après avoir baissé sous la barre des 1000 nouveaux cas?
J'ai posé la question à la docteure Camille Candela que ce chiffre-là augmente cet été ou cet automne ou plus tard l'hiver. Elle disait, par exemple, qu'il faudrait que son bureau analyse ce qui se passe. Est-ce que c'est le début d'une quatrième vague? Est-ce que c'est à cause de la venue d'un nouveau variant? Est-ce que les nouveaux cas sont liés à une éclosion qui touche des gens non vaccinés comme des enfants dans des écoles primaires et ainsi de suite? Donc, selon la réponse, selon leur analyse, la santé publique pourrait changer les critères d'auto-isolement pour les Ténois de retour de voyage qui sont partiellement ou non vaccinés et leur demander de s'auto-isoler pendant 14 jours plutôt que 8 ou 10 jours.
Bref, il n'y a rien de définitif là, dans ce plan-là. Et le gouvernement prévoit par ailleurs une reprise du tourisme cet automne.
Oui, et encore là, ça repose sur des conditions. Tout le monde pourra venir en voyage au territoire du Nord-Ouest lorsque 75 % des adultes ténois seront entièrement vaccinés. On est à 62 % en ce moment. Que 66 % des adultes canadiens le seront entièrement et qu'il y aura toujours moins de 1000 nouveaux cas par jour au Canada. Les mêmes critères d'auto-isolement demandés pour les résidents du territoire vont s'appliquer aux voyageurs. Pas besoin de s'auto-isoler s'ils sont pleinement vaccinés et de 8 à 10 jours s'ils sont partiellement ou non vaccinés. Je me permets de rappeler que la docteure Candela disait que son plan était basé sur des données et non des dates, mais des estimations ont été publiées avec le plan. Par exemple, début juillet pour les rassemblements intérieurs de 200 personnes, début de l'été pour la réduction des exigences d'auto-isolement et fin de l'été ou début de l'automne pour l'arrivée des touristes. Mais comme on pouvait lire dans le plan, celles-ci ne sont que les estimations les plus optimistes. Bref, ça pourrait être pas mal plus long.
Et je le répète, les règles pourraient changer si le coronavirus devait nous réserver de mauvaises surprises. Par exemple, un variant pour lequel les vaccins seraient inefficaces. On se croise les doigts, ne nous faisons pas prophète de malheur. Un retour à des mesures restrictives pourrait alors être de mise, a averti la docteure Camille Candela. Marie-Soleil des Hôtels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
La survie des entreprises de tourisme et d'hébergement des territoires du Nord-Ouest a été évoquée ce lundi 7 juin en conférence de presse par la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Caroline Vazonic. Cette dernière avait convié les médias pour présenter deux programmes d'aide financière destinés aux entreprises de tourisme et aux fournisseurs d'hébergement. Également présente, la chef de la direction de tourisme TNO, Donnelly DeMarc, a exprimé la hâte des entreprises du secteur à voir les frontières des territoires du Nord-Ouest réouvertes aux voyageurs canadiens. C'était quelques jours avant le dévoilement du plan de déconfinement de la santé publique, selon lequel un retour des touristes au territoire du Nord-Ouest pourrait être possible à partir de cet automne.
We need to, hopefully that happens very soon. Tourism is a very competitive market, and the Yukon's already made their announcement, and this morning Nunavut made their announcement. So hopefully we're not too far behind them because, it's like I mentioned, it's a very competitive market. So
nous espérons que ça va se produire très rapidement, a affirmé Madame Donnelly DeMarc. Le tourisme est un marché très compétitif, ajoute-t-elle. Le Yukon et le Nunavut ont déjà fait leurs annonces. Espérons que nous ne serons pas trop loin derrière. Rappelons que le gouvernement du Nunavut a annoncé le 7 juin l'ouverture de ses frontières aux voyageurs qui ont reçu leurs deux vaccins, et ce, sans obligation d'auto-isolement. En attendant le retour graduel des touristes, les fournisseurs d'hébergement, dont les installations comprennent trois chambres ou plus, peuvent désormais se tourner vers le programme de compensation du secteur de l'hébergement touristique pour couvrir certaines dépenses s'ils ont subi une baisse importante de leur clientèle. De plus, le programme prolongé des mesures d'aide liées à la pandémie offre aux exploitants d'entreprises touristiques un financement pouvant aller jusqu'à 100 000 $ pour couvrir les coûts fixes admissibles. Ces deux programmes, offerts conjointement avec le gouvernement fédéral via CANOR, demeurent en place pour le reste de l'exercice financier.
Through these two, our hope, of course, now is that our licensed tourism operators and regulated accommodation providers of three or more rooms will have support to keep these lights on and keep their doors open. until we are at a point where we are not talking only about relief and recovery, but again, back to a point of comfort and growth.
La ministre Caroline Vazonek indique espérer qu'avec ces deux programmes, les entreprises de tourisme et les fournisseurs d'hébergement auront l'aide nécessaire pour survivre jusqu'à ce qu'on ait atteint un point où on ne parlera plus d'aide ou de reprise, mais bien de stabilité et de croissance. Au moment où les frontières des territoires du Nord-Ouest seront ouvertes au reste du Canada, les touristes seront-ils au rendez-vous? Sur le plan de la popularité prochaine des TNO comme destination touristique, Mme Demarc et la ministre Vazonek disent avoir observé des signes prometteurs, laissant croire que les territoires du Nord-Ouest se distingueront aux yeux des touristes canadiens comme une destination sécuritaire. Une impression qui aurait été partagée à la ministre par ses homologues des territoires et des provinces.
Speak with a lot of federal and territorial provincial ministers of tourism, and I just said, gosh, you know, we have so many folks here who haven't seen family and that they can't wait to travel. And right away, the reaction was, man, you guys are going to get a boom. We all want to come see you. That everyone wants to come here and get away and do something.
Les territoires du Nord-Ouest connaîtront un boom. C'est ce qu'on aurait répondu à la ministre Caroline Vazonek lors d'une rencontre entre ministres des provinces et territoires. Selon eux, tout le reste du Canada va vouloir visiter les territoires du Nord-Ouest lorsque ce sera possible. Donnelly DeMarc a également pu observer un intérêt marqué pour les TNO en tant que destination touristique, et ce dans le cadre d'une récente expo-vente virtuelle organisée par Rendez-vous Canada.
Of the 539 booths, we were the third most visited booth at the trade show. NWT Tourism. So, I mean, that's a spectacular piece of information out there.
En matière d'achalandage, lors de cette expo-vente, explique Mme DeMarc, le kiosque de tourisme TNO est arrivé en troisième position parmi les 539 exposants. Un résultat spectaculaire, dit-elle, une donnée qui indique que les Canadiens ont envie de visiter les territoires du Nord-Ouest. Le centre-ville d'Inuvik est en transformation profonde. Le journaliste Denis Laure nous fait le détail de ces mutations. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Denis, Inuvik se dote progressivement d'un pavillon des événements spéciaux, d'un centre des visiteurs et de terrains de baseball et de soccer. C'est quand même majeur comme ajout.
Oui, je pensais que c'était le plus gros changement à survenir depuis bien des années, mais la mairesse Natasha Kulikovski met ça en second après l'implantation de la nouvelle usine de traitement d'eau qui a eu lieu il y a quelques années. Quand même, le fédéral a investi plus d'un million dans ces nouveaux terrains, ces nouveaux bâtiments, et il y a un montant additionnel qui est investi par Inuvik. J'ai pas le chiffre exact. Tous ces changements-là ont lieu au parc Jim Kwan. La première affaire qui a été terminée, c'est le pavillon des événements spéciaux. Écoute, ils vont bien y trouver un nom qui se conforme à la place, qui a des racines. En attendant, ils l'appellent le pavillon des événements locaux. C'est comme une grande tente blanche, 270 places. Il y a deux scènes. Une scène, ils appellent ça un trailer stage. Tu traduirais ça comment?
Mon Dieu, une scène remorque, pour traduction littérale, ouais. Une scène qui se transporte, quoi. Là.
Oui, c'est ça. Et puis, les murs sont amovibles. Ils vont d'ailleurs être enlevés cet été. Donc, ce pavillon-là peut être utilisé pendant les quatre saisons. L'ouverture officielle, ça a déjà servi le 5 juin dernier. Ils ont filmé la Journée nationale des Inuvialuits. C'est sur Internet. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, c'est là. Mais l'ouverture officielle, c'est le 19 juin prochain avec le Arctic Market. Il va y avoir un spectacle d'ouverture, mais le nom des artistes n'a pas encore été dévoilé.
Et Denis, le Arctic Market déménagera plus tard. C'est Pénate, dites-vous, juste à côté, dans le nouveau bureau des visiteurs.
Oui, l'objectif est que le bâtiment soit fini de construire au début de l'hiver. Donc, à noter qu'on parle ici du bureau des visiteurs de la ville, c'est pas celui du gouvernement qu'on voit en premier lorsqu'on arrive dans la direction de l'aéroport. Donc, nouveau bâtiment, si vous voulez, on va écouter la mairesse d'Inuvik, Natasha Kulikovski, qui va vous parler des fonctions de ce qu'on va y retrouver.
The visitor center itself will be like a reception space and a couple of offices and some display space. And then attached to that same building is the open air market area, which will be space for the tables for every week for vendors. And then it will also allow for really anything, birthday parties, weddings, whatever people want to use that space for. It, It will be available also by booking.
La mairesse de la municipalité d'Inuvik, Natasha Kulikovsky, qui nous explique que le Arctic Market va bénéficier également d'espaces intérieurs et extérieurs, d'un bureau de tourisme, d'espaces pour exposition qui seront aussi disponibles sur réservation pour des événements. Denis, on imagine que ces travaux pourraient perturber les habitudes des citoyens d'Inuvik.
Oui, ça va être effectivement le cas. Les espaces verts du parc ne seront pas disponibles cet été. Il n'y aura pas de passage non plus entre le parc et le Midnight Sun Complex. Le stationnement va être limité dans le secteur. Donc, on ne peut pas avoir le bar et l'argent du bar, n'est-ce pas?
Non. Donc, la municipalité d'Inuvik entend trouver du financement pour compléter le renouveau du parc Chief Jimco, avec entre autres du paysagement, des toilettes et de l'art public. Denis Laure, merci beaucoup.
Merci, Thomas.
La députée du Satou, Polichina, perd son titre de ministre des Affaires municipales et communautaires. Dans ce petit remaniement ministériel, la première ministre Caroline Cochrane confie les affaires municipales et communautaires au député de Nahende, Shane Thompson, qui demeure également ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles. Polichina conserve sa place au sein du Conseil des ministres à titre de ministre responsable de la Société d'habitation et de ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs. Par communiqué, la première ministre affirme avoir voulu dégager Mme China de certaines responsabilités pour se concentrer plus efficacement sur le dossier du logement. Un autre changement a été annoncé à cette 19e Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Après 16 années à représenter sa circonscription, le député de Montfouy, Jackson Lafferty, a présenté sa démission. M. Lafferty a également annoncé qu'il sera candidat aux prochaines élections du gouvernement Clichon. Les audiences publiques en vue de la révision de la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest ont commencé cette semaine. Le comité parlementaire chargé de cette révision était à Inuvik le 7 juin. Baptiste Foisy a jeté un œil sur ces audiences. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Baptiste, on est en train de réécrire la loi sur les langues officielles.
Ben oui et non, Thomas. En fait, c'est un processus de révision en ce moment. La loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest, elle date de 1985. Elle a été modifiée pour la dernière fois en 2003. C'est cette loi qui dit qu'il y a 11 langues officielles au territoire du Nord-Ouest, l'anglais, le français et 9 langues autochtones. Le processus de révision donc de la loi a lieu tous les 5 ans. Mais comme vous pouvez le voir, là, c'est pas tout chaque fois qu'on réécrit la loi. La dernière fois, c'était donc en 2003. Mais cette révision-là, ce processus-là, a été entamé par le comité des opérations gouvernementales à l'automne dernier. Et dès les débuts là, du processus, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest s'est présenté devant le comité pour proposer des amendements à la loi, ce qui donc le supposait là, que vraisemblablement, à l'issue de ce processus, il y aura un projet de loi déposé. Le comité, là, en ce moment, tient des audiences itinérantes pour pouvoir recueillir les commentaires du public.
Et donc, le comité s'est rendu à Inuvik cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces audiences?
Bon, c'est des audiences qui n'ont pas attiré grand monde à Inuvik. On parle de 6 personnes qui étaient présentes, 5 qui se sont adressées au comité. Il y a d'ailleurs des gens là, qui ont pris la parole, qui ont déploré que ça n'était pas très bien annoncé, tout ça, que c'est un sujet important et peut-être que ça aurait mérité qu'on soit plus au courant que ça avait lieu, ces audiences. Enfin, ce qui a été surtout soulevé là, par les présentateurs à Inuvik, c'était des questions qui touchaient à la question de l'éducation dans les langues autochtones. Il y a notamment Sarah Jérôme, une locutrice Gwich'in, qui est une ancienne commissaire aux langues des territoires du Nord-Ouest, qui s'est, elle, indignée qu'on enseigne seulement une demi-heure de langue autochtone par jour dans les écoles primaires à Inuvik. Et c'est une demi-heure pour deux langues, hein, le Gwich'in et l'Inuvialuktun. Par ailleurs, je dois préciser que si c'était un sujet qui a beaucoup retenu l'attention des présentateurs à Inuvik, La question de l'enseignement dans les langues officielles ne fait pas partie de la loi sur les langues officielles. En fait, pour le français, c'est une loi fédérale. Et pour les langues autochtones au territoire du Nord-Ouest, il n'y a pas de législation là, sur la question l'enseignement dans ces langues-là. Peut-être que ça pourrait être une éventuelle recommandation du comité d'en créer une. D'ailleurs, pour revenir à Mme Jérôme, ce jour-là, elle était plutôt remontée. On va aller écouter un extrait de ce qu'elle a dit aux membres du comité.
And when I see these things continuing regarding our Aboriginal people, I've decided that I'm not going to sit back and be silent anymore. I called the school last week and I said to the principal, if the two languages are going to continue to be taught in a half-hour slot next year, I am taking my grandchildren out of the school and I'm teaching them the language myself at home.
Sarah Jérôme Dinovic qui dit qu'elle retirera ses enfants de l'école si on ne peut pas offrir un enseignement immersif en Gwich'in. Baptiste, quelle est la suite du processus?
Oui, bien le il y aura de nouvelles audiences de ce comité. Ces audiences-là, les dates n'ont pas été annoncées. Là. Il n'y a rien au calendrier. On imagine bien que ça viendra dans la capitale territoriale éventuellement, mais on ne sait pas quand. Il y a également la possibilité là, pour le public là, de présenter des mémoires. On peut penser que les communautés linguistiques pourraient faire ce genre de choses-là. Le comité doit produire un rapport d'ici le début de l'année 2022. Ensuite, et puisque c'est un comité parlementaire, il s'adresse au gouvernement. Lui dispose de quelques mois pour répondre à ce rapport. Et si les recommandations vont dans ce sens-là, et on imagine que ce sera le cas, on peut s'attendre au dépôt d'un projet de loi là, avant la fin de la présente législature.
Donc tout ça pour apporter des modifications à la loi sur les langues officielles des TNO qui, rappelons-le, n'a pas été modifiée depuis 2003. Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Je vous en prie, Thomas.
Sprint final avant l'été. L'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest siégeait du 27 mai au 4 juin. Le temps de présenter une série de projets de loi qui n'attendent maintenant que la rentrée d'automne et le retour en chambre des députés. On a vu notamment se greffer une première modification à la loi sur l'éducation des territoires du Nord-Ouest qui est en plein processus de révision. Le projet de loi 25, qui a été adopté à l'unanimité, permet désormais au conseil scolaire d'avoir des mandats de durée variable de façon à ce que les élections scolaires surviennent au même moment que les élections municipales. Ce changement a dû être adopté, notamment parce que le conseil municipal de Yellowknife est maintenant élu tous les 4 ans plutôt que tous les 3 ans. Toutefois, vu la disposition particulière de la commission scolaire francophone des TNO, dont les deux écoles se trouvent dans des collectivités différentes, les directions des écoles Boréal et Alain Saint-Cyr souhaitent continuer de tenir leurs élections scolaires comme avant, c'est-à-dire sans égard aux élections municipales. Là-dessus, on écoute le président de la CSF-TNO, Simon Cloutier.
Dans l'amendement qui va être fait à la loi, c'est clairement écrit qu'on a le droit d'avoir les conseils scolaires partout au TNO ont le droit d'avoir des mandats de 2, 3 ou 4 ans. Donc, vu que nous, on a décidé de rester à 3 ans, bien, ça n'a absolument aucun impact sur les élections scolaires de la CSF-TNO.
Dans la foulée du processus de transformation du Collège Aurora en Université Polytechnique, dont l'ouverture est prévue pour 2025, un nouveau projet de loi est voué à inclure une nouvelle approche de gouvernance à la loi sur le Collège Aurora. En bref, suivant l'adoption éventuelle, possiblement l'automne prochain, de ce projet de loi, les prises de décision de l'institution qui sont actuellement confiées au GTNO seront transférées à un conseil de direction axé sur les compétences de ses membres. Un conseil de détenteurs du savoir traditionnel doit également être créé pour conseiller ce conseil de direction. Avant d'être approuvé, ce projet de loi doit d'abord être soumis à l'examen d'un comité permanent de l'Assemblée. Rappelons que le plan de transformation du Collège Aurora en est présentement à sa première phase, qui est destinée à l'élaboration de ses fondations. Cette phase devrait se conclure en octobre 2021. Le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, a présenté son propre projet de loi, un projet qui, s'il est adopté, permettra au gouvernement de divulguer des renseignements confidentiels sur les redevances sur les ressources minérales et gazières, et ce, à un député ou à un gouvernement autochtone. Selon le projet de loi, ces informations devront servir à l'élaboration et à l'évaluation de politiques pour le gouvernement. Selon le député Kevin O'Reilly, il s'agirait là d'un premier pas vers une meilleure transparence dans la déclaration des sommes versées au gouvernement, notamment par les compagnies minières, pour le développement des ressources. Adopté en seconde lecture, ce projet de loi sera soumis à l'examen d'un comité permanent de l'Assemblée législative. Disons, par exemple, qu'on a déterminé que vous avez été en contact avec le coronavirus et que vous devez vous mettre en isolement obligatoire. À l'heure actuelle, votre emploi est entre les mains de votre employeur. Déposé en juin lors de la dernière session de l'Assemblée législative, ce n'est qu'à l'automne prochain que sera soumis au vote final le projet de loi modifiant la loi sur les normes du travail. Ce projet de loi prévoit le droit à un congé en raison d'une situation d'urgence, un congé non payé, pour les employés qui sont incapables d'exercer leurs fonctions à cause de cette situation d'urgence. Toutefois, selon une source bien informée, la dernière convention collective du syndicat des employés du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, qui doit encore être soumise au vote des membres, inclut déjà cette protection. Et pour terminer cette revue des plus récents projets de loi, la Journée nationale des Autochtones, qui se tient le 21 juin, pourrait changer de nom et devenir la Journée nationale des peuples autochtones. En anglais, la distinction est plus marquée. La National Aboriginal Day deviendra la National Indigenous Peoples Day. C'est cette semaine que débutait le marché estival de Yellowknife, le très attendu Farmers Market, qui s'installe au Parc Sambaqué jusqu'au 18 septembre. Les épicuriens ténois pourront profiter des différents kiosques et des activités du marché qui, rappelons-le, sera sans doute très bientôt libéré de certaines restrictions de santé publique. Thomas Chabot s'est entretenu avec la vice-présidente du Farmers Market, Lise Picard. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Donc, à quoi est-ce qu'on va avoir droit cette année, Thomas? Là, on s'imagine que les jardiniers et maraîchers sont très heureux de retourner au Parc Sambaqué dans un cadre qui est quand même pas mal moins réglementé que l'an dernier, là.
Bonne déduction, mon cher Watson. Comme à l'habitude, le marché de Yellowknife accueillera plusieurs kiosques alimentaires locaux à son emplacement au Parc Sambaqué. Je vous propose d'écouter Mme Picard à ce sujet avant de vous présenter les détails de l'édition 2021.
On l'écoute.
Donc, en offrant des kiosques de vente aux différents jardiniers et maraîchers locaux, le marché espère encourager le développement de l'agriculture locale. C'est vraiment le but ultime. On se dit qu'il est possible de nourrir la population de Yellowknife en combinant les ressources telles que celles venant de la pêche et d'une agriculture locale.
Donc, pour ce qui est des kiosques en tant que tels, eh bien, la diversité est au rendez-vous. On a McTurks qui vendra des saucisses faites à la main avec de la viande biologique de provenance albertaine. NWT's Finest Fish, qui se spécialise dans le poisson local du Grand Lac ainsi que du Grand Lac de l'Ours, offrira aussi des confitures préparées avec des baies locales et non du poisson local. Ne vous en faites pas. On parle ici d'amélangier, de cerises de Virginie ou de cassis. Et là, je sens que vous commencez à avoir l'eau à la bouche, Thomas. L'entreprise Madeleine Lake Market Garden sera présente pour vendre les herbes de leur jardin ainsi que des sels infusés avec les herbes. Le Refuge Farm vendra aussi des légumes, des herbes et des baies fraîchement cueillies de leur jardin, sauf que le Refuge Farm ne s'arrête pas là. Ils vendront aussi des fromages à pâte molle. Tout est donc au rendez-vous pour se concocter un bon pique-nique en plein air.
Ben oui, Thomas, j'ai hâte à midi. Je pense que je vais aller chez IW. Par contre, le marché de Yellowknife, c'est pas seulement des produits frais, c'est aussi des plats préparés, des produits transformés, aussi de l'artisanat, Thomas. Quelles échoppes seront présentées cette année?
En parlant avec Mme Picard, on comprend assez vite que l'un des éléments clés du marché, c'est le prêt à manger. Cette année, on a d'ailleurs My African Cuisine YK Yellowknife qui sera de la partie avec un éventail de produits dont des sauces, des beignes, des tartes d'inspiration africaine, du couscous. Fishy People offriront aussi des repas de poissons pêchés localement, apprêtés sous toutes ses facettes. Il y a d'ailleurs des gâteries pour chiens, si je ne me trompe pas. Et si vous avez encore faim après tout ça, eh bien pourquoi pas un bubble tea du kiosque Kai's Kitchen ou un dessert taïwanais de Oja pour faire passer le tout. L'artisanat de Yellowknife a aussi une place importante, comme vous l'avez mentionné, Thomas. Les visiteurs pourront y retrouver des bijoux, des peintures ou d'autres créations artisanales d'artistes locaux.
Parlons d'un côté un peu moins plaisant, Thomas, qui a toutefois pas l'air d'avoir freiné les clients là, jusqu'à maintenant à voir la ligne d'attente au premier événement. Abordons l'impact des règles de santé publique sur la tenue du marché. Quelles mesures ont été prises, Thomas?
Bien, rien n'échappe à la pandémie, bien sûr, on le sait tous. Et le marché de Yellowknife ne fait pas exception à la règle. Et cependant, avec la sortie de la mise à jour du plan de reprise avisée par la santé publique, bien, les règles pourraient être amenées à changer pour le marché au courant des semaines et des mois qui suivent. Alors, ce qui est des règles présentement qui sont mises en place, eh bien, les kiosques sont plus espacés qu'à la normale. Néanmoins, il y aura une quinzaine de vendeurs qui seront présents chaque semaine. Il est demandé aux visiteurs présents sur place, eh bien, de respecter la distanciation sociale et les autres règles de base de la santé publique, mais aussi de circuler une fois les achats faits. Ça veut donc dire pas de flânage entre deux bouchées de tarte. D'ailleurs, une clinique de vaccination avait été installée sur le site du marché le 8 juin, une clinique extérieure. Je vous propose d'écouter à nouveau Mme Picard sur les changements apportés cette année.
Ce qui est nouveau cette année par rapport à l'année passée, c'est que maintenant, cette année, on est capable d'avoir des spectacles sur la scène du marché. Alors, tous les musiciens vont pouvoir faire leur performance sur la scène du Samba Cay Park. On est capable aussi de reprendre ce qu'on appelait le Harvester's Table, qui est une table de vente pour les jardiniers de la ville qui veulent venir vendre leurs produits maraîchers.
Stélise Picard, vice-présidente du marché des fermiers de Yellowknife. Et Thomas, rappelons-le, vous parliez des règles qui sont imposées à l'heure actuelle. Ça pourrait être appelé à changer prochainement. Après tout, les rassemblements extérieurs de 200 personnes sont maintenant permis au territoire du Nord-Ouest. Le marché de Yellowknife aura donc lieu chaque mardi jusqu'au 18 septembre. Des informations supplémentaires concernant les spectacles qui seront offerts, les artisans qui seront présents et l'horaire du marché sont disponibles sur le site Internet yellowknifefarmersmarket.ca. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Un assouplissement des règles d'auto-isolement qui s'adresse aux personnes qui voyagent sur la route d'Amster a été mis en place entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest cet été. Ma collègue Nelly Guidici, qui est à Whitehorse, est avec nous pour nous donner les détails. Nelly, c'est une bonne nouvelle pour les résidents du nord du territoire.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a annoncé la mise en place de cette exemption aux exigences d'auto-isolement pour les personnes du Yukon qui souhaitent voyager et circuler sur la route d'Amster cet été et qui souhaitent donc se rendre dans les collectivités du Beaufort Delta. Donc, avant leur départ, les voyageurs veulent voyager dans cette région doivent soumettre un plan d'auto-isolement accompagné d'une demande d'exemption au bureau de l'administratrice en chef de la santé publique des territoires du Nord-Ouest. Ces demandes sont en moyenne traitées en 72 heures. Et cette mesure concerne également les résidents des collectivités de Beaufort Delta qui souhaitent se rendre au Yukon par la même route, par la route d'Amster. Donc c'est une bonne nouvelle car ces personnes n'auront plus l'obligation de s'auto-isoler pendant 14 jours à leur arrivée ni à leur retour dans leur province de résidence.
Et oui, on en avait parlé beaucoup à l'Assemblée législative. Je pense que c'est très bien reçu comme nouvelle pour les résidents d'Inuvik notamment. Et Nelly, quand est-ce que cette mesure entre en vigueur?
Alors, cette mesure est entrée en vigueur hier, le 9 juin 2021, avec la reprise des services de traversiers du fleuve Mackenzie à Chic-et-Chic et de la rivière Peel à Fort McPherson. Alors, il faut remarquer que cette mise à l'eau est tardive et elle est due au niveau de la rivière Peel qui est demeurée élevée au printemps. Et en moyenne, au cours des 5 dernières années, la date d'entrée en service du traversier Louis Cardinal, par exemple, sur le fleuve Mackenzie, est plutôt située au 31 mai. Donc, il y a un peu de retard cette année, mais le service de traversier fonctionne depuis le 9 juin 2021.
Donc, un premier assouplissement des règles aux frontières. Et si on se fie aux estimations de la Dr Candola, il va y en avoir d'autres au courant de l'été. Nelly Guidici, merci beaucoup.
Merci, Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste pour Médias Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.